Si vous savez tout de vos ancêtres, c'est que vous avez été personnellement témoin des événements qui ont créé les mythes et les religions de notre passé. Acceptant cela, vous devez reconnaître que je suis un faiseur de mythes. Les mémoires volées. La première explosion retentit au moment où la nuit commençait à envelopper la cité de Aune. La déflagration surprit quelques hardis fêtards qui passaient devant l'ambassade ixienne pour se rendre à une soirée où, leur avait-on assuré, des danseurs visages joueraient une pièce antique où il était question d'un roi qui massacrait ses enfants. Après les violents événements qui avaient marqué les quatre premières journées de festivités, il fallait un certain courage à ces fêtards pour quitter la relative sécurité de leur domicile. Il circulait partout des histoires d'accidents, quelquefois mortels, survenus à des passants innocents, et voici que de l'eau était encore apportée au moulin de ceux qui préconisaient de s'enfermer chez soi. Aucun des blessés n'eût certes apprécié la remarque de Leto, selon laquelle les passants innocents constituaient une espèce relativement rare. Les sens aigus de l'Empereur-Dieu détectèrent et localisèrent l'explosion dès qu'elle se produisit. Mû par une furie qu'il devait regretter plus tard, il appela ses truitesses en hurlant et ordonna que soient anéantis les danseurs visages, même ceux qu'il avait précédemment épargnés. À la réflexion immédiate, cette sensation de furie en soi fascinait Leto. Il y avait tellement longtemps qu'il n'avait ressenti même une colère légère. De la frustration, de l'irritation, oui, mais c'était là le plafond. Et à présent, à l'idée d'un danger menaçant Huinori, une authentique furie. Après quelques instants de méditation, il revint sur son ordre initial, mais pas avant que plusieurs truitesses aient quitté au pas de course l'auguste présence. Leurs plus violents instincts déchaînés par ce qu'elles avaient lu dans les yeux de leur seigneur.
« Dieu est en colère !» cria-t-elle.
La seconde explosion atteignit un groupe de truitesses qui émergeait sur la place, retardant d'autant la transmission du contre-ordre de Leto et déclenchant de nouvelles violences. La troisième déflagration, située non loin de la première, fit entrer Leto lui-même en action. Propulsant son chariot royal comme un véritable bolide, il quitta la petite chambre, monta dans l'ascenseur ixien et jaillit à la surface de la place. En émergeant, Leto contempla un spectacle de désolation et de chaos, éclairé par des milliers de brilleurs flottants lâchés par les truitesses. L'arène centrale de la place avait été détruite. Seule l'assise de plastacier demeurait intacte sous le revêtement de surface. Partout, des décombres étaient mêlés aux morts et aux blessés. Dans la direction de l'ambassade ixienne, de l'autre côté de la place par rapport à Leto, il y avait des signes de violents combats.
« Où est mon Duncan ?»
rugit l'Empereur Dieu. Une bachar de la garde arriva au pas de course pour lui faire son rapport en haletant. « Nous l'avons conduit à la citadelle, monseigneur.
Que se passe-t-il là-bas »
demanda Leto en montrant la direction de l'ambassade ixienne.
« Les rebelles et les Tlélaxu ont attaqué l'ambassade, monseigneur. Ils ont des explosifs. »
Au moment même où elle disait ces mots, une nouvelle explosion se produisit devant la façade ébréchée de l'ambassade. Leto vit des silhouettes désarticulées se soulever dans les airs et retomber en une courbe large, à l'orée d'un grand embrasement, dont il ne subsistait qu'une image résiduelle orange cloutée de petits points noirs. Sans réfléchir aux conséquences, Leto mit en action les suspenseurs de son chariot et fonça à travers la place, tel un terrible béhémoth aspirant les brilleurs dans son sillage. Arrivé sur les lieux du combat, il sauta au-dessus de ses propres troupes et plongea directement dans le flanc ennemi, en prenant alors seulement conscience des lasers qui dirigeaient vers lui leurs arcs bleutés livides. Il sentit l'avant du chariot pénétrer dans la masse de chair, projetant des corps de tous les côtés. Le chariot l'éjecta juste devant l'entrée de l'ambassade, heurtant un tas de décombres qui l'arrêta net. Leto roula sur une surface dure. Il sentit les rayons des lasers picoter son corps annelé, puis une explosion de chaleur intérieure se transforma en un renvoi libérateur d'oxygène au niveau de sa queue. D'instinct, il avait enfoncé la tête dans ses replis protecteurs et rentré les bras dans les profondeurs du segment antérieur de son corps. Le ver avait alors pris la relève, tournoyant comme une roue folle, broyant et balayant tout ce qui se trouvait autour de lui. Le sang recouvrait la rue d'une pellicule visqueuse. Le sang, pour son organisme, était de l'eau transmuée, mais l'eau était libérée par la mort.
Son corps gigantesque glissait et dérapait dans la mare liquide, et une fumée bleue montait de chaque articulation où l'eau avait pu se frayer un chemin à travers la peau de truite qui lui servait d'épiderme. La douleur de l'eau ne faisait qu'ajouter à la violence des soubresauts qui agitaient le ver. Dès l'intervention de l'étau, les premières lignes de truitesse s'étaient repliées. Une bâchard à l'esprit alerte avait immédiatement compris le parti à tirer de la nouvelle situation. Par-dessus les bruits de la bataille, elle hurla « Occupez-vous des isolés !» Les rangs des truitesses se resserrèrent. Le carnage dura quelques minutes, les lames scintillant à la faveur des brilleurs implacables, tandis que les arcs des lasers dansaient dans le ciel. Même les mains nues, les pieds, faisaient leur ravage dans les chairs vulnérables. Les truitesses ne laissèrent aucun survivant. L'étau se dégagea d'un mouvement ondulant, de la bouillie sanglante qui entourait l'ambassade. Sous la douleur de l'eau, il avait tout juste la force de penser. L'air était partout saturé d'oxygène, ce qui aidait à clarifier ses sens humains. Il fit venir son chariot qui flotta lentement vers lui, penchant dangereusement sur ses suspenseurs endommagés. Il monta prudemment dans le véhicule et lui donna mentalement l'ordre de regagner sa demeure dans les profondeurs de la place. Depuis bien longtemps, il avait pris des dispositions pour pouvoir faire face, en cas d'urgence, aux dommages causés par l'eau. Il disposait d'une salle spécialement aménagée où de puissants jets d'air chaud le sécheraient et lui redonneraient des forces. Le sable du désert eût été pour cela préférable, mais il n'existait malheureusement pas, dans les alentours immédiats de la cité festive, d'étendue de sable assez vaste pour qu'il pût s'y vautrer afin d'arracher à son corps l'humidité qui le souillait. Une fois dans l'ascenseur, il pensa à Hui et fit partir l'ordre de la lui amener immédiatement, si elle est encore vivante. Il n'avait pas le temps maintenant de faire une recherche prescience. Il ne pouvait qu'espérer, tandis que son corps, aussi bien humain que prévermiforme, attendait le bain de chaleur purificatrice. Il était déjà sous les jets d'air brûlants quand il songea à répéter son contre-ordre. « Épargnez quelques-uns des danseurs visages !» Mais il était trop tard. Les truitesses enragées écumaient la cité, et l'empereur Dieu n'avait pas la force d'utiliser sa prescience pour dépêcher des messagères au point stratégique. Une lieutenante de la garde vint lui annoncer, au moment où il ressortait de la salle de purification, que Hui Nori, bien que légèrement blessé, ne courait plus aucun danger et lui serait amené dès que les conditions le permettraient. L'étau promut sur le champ la lieutenante au grade de sub-bachar. C'était une femme massive, du type Neila, mais au visage moins carré, aux traits plus arrondis, plus proches des anciennes normes. Elle tremblait sous la chaleur de l'approbation seigneuriale, et quand l'étau lui ordonna de repartir pour veiller doublement à la sécurité de Hui, elle pivota sur ses talons et s'éloigna au pas de course de l'auguste présence. « Je ne lui ai même pas demandé son nom », songea l'empereur Dieu en se laissant glisser dans le chariot tout neuf qu'il attendait dans la fosse de sa petite salle d'audience. Il lui fallut quelques instants de concentration pour se rappeler comment la nouvelle sub-bachar s'appelait. Kyoemo. Il faudrait confirmer la promotion. Il prit mentalement note de s'en occuper personnellement. Toutes les truitesses devaient savoir le prix qu'il attachait à Hui Nori, s'il pouvait encore y avoir un doute après ce qui s'était passé ce soir. Il effectua alors sa recherche prescience et dépêcha des messagères à ses truitesses en folie. Mais déjà le mal était fait. Aune était couverte de cadavres, parmi lesquels une majorité de danseurs visages, mais aussi un bon nombre de simples suspects. « Et beaucoup, aujourd'hui, m'auront vu tuer », se dit-il. En attendant l'arrivée de Hui, il passa mentalement en revue les événements récents. Cette attaque n'était pas dans la manière habituelle du Tleilax. Cependant, l'attentat précédent sur la route de la cité festive s'éclairait d'un jour nouveau, le tout désignant une volonté unique animée par de sinistres desseins. « J'aurais pu y laisser ma vie », songea-t-il. Cela expliquait en partie pourquoi il n'avait pas prévu l'attaque, mais il existait une raison plus profonde. L'étau la voyait émerger peu à peu dans son esprit conscient, récapitulant toutes les clés. Quel était l'humain qui connaissait le mieux l'empereur Dieu ? Celui qui disposait d'un endroit secret pour conspirer. Malki. L'étau fit venir une garde et lui ordonna de s'enquérir si la révérende mère Antéac avait déjà quitté Arrakis. La garde fut de retour quelques instants plus tard pour faire son rapport. Antéac n'est pas encore partie. La délégation du Bene Gesserit n'a essuyé aucune attaque. Tu vas porter un message à Antéaque, lui dit Leto. Tu lui demanderas si elle comprend à présent les raisons pour lesquelles j'ai logé sa délégation si loin du centre. Tu lui diras ensuite que dès son arrivée sur X, elle devra découvrir l'endroit où se trouve Malki et communiquer ses coordonnées à notre garnison sur X. Malki, l'ancien ambassadeur d'X, celui-là même. Il ne devra pas demeurer vivant et libre de ses mouvements. Tu transmettras l'ordre à la commandante de garnison là-bas de rester en liaison étroite avec Antéaque et de lui fournir toute l'assistance voulue. Malki devra m'être amené ici ou bien exécuté selon ce que la commandante jugera nécessaire. La garde messagère hocha la tête. Des ombres jouaient sur son visage dans la sphère de lumière qui entourait la partie humaine de l'étau. Elle n'avait pas besoin qu'on lui répète ses ordres. Comme toutes les gardes attachées à la personne de l'empereur Dieu, elle avait subi une formation qui faisait d'elle un véritable enregistreur humain. Elle n'oublierait aucune des paroles prononcées par l'étau et serait capable de reproduire même ses intonations. Quand elle fut partie, l'étau émit un signal de recherche codé. Quelques secondes plus tard, Neyla répondit. Le système ixien du chariot synthétisa une version neutre, métallique et non identifiable de sa voix, destinée aux seules oreilles de l'empereur Dieu. Oui, Siona se trouvait à la citadelle. Non, Siona n'avait pas contacté les autres rebelles. Non, monseigneur, elle ne sait pas encore que je suis ici et que je l'observe. L'attaque de l'ambassade? C'était le fait d'un groupe dissident qui se donnait le nom de Unité de contact Tleilaxu. Leto soupira mentalement. Les rebelles donnaient toujours à leur groupe les mêmes titres pompeux.
Il y a des survivants? Demanda-t-il.
Pas à notre connaissance. Il était amusant, songea Leto, que les intonations qui faisaient défaut à la voix métallique fussent suppléées par sa propre mémoire.
Tu établiras le contact avec Siona, dit-il. Révèle-lui que tu es une truitesse. Explique-lui que si tu as attendu pour lui faire cette révélation, c'est parce que tu savais qu'elle n'aurait plus confiance en toi, et aussi parce que tu craignais d'être démasqué par les truitesses chez qui tu es isolé. Tu lui répéteras ton serment d'allégeance. Dis-lui que tu lui jures, par tout ce que tu as de plus sacré, de lui obéir en tout point, qu'elle ordonne et tu exécuteras. Comme tu le sais, il n'y a dans tout cela que la vérité.
Oui, monseigneur. La mémoire de l'empereur Dieu ajouta à cette réponse le fanatisme qui lui manquait. Neyla s'empresserait d'obéir.
« Si possible, » ajouta Leto, « tu t'arrangeras pour que Siona et Duncan Idaho restent seuls ensemble. »«
Oui, monseigneur. »« Que la proximité fasse son œuvre, » songea-t-il. Il rompit le contact avec Neyla, réfléchit quelques instants, puis envoya chercher la commandante de garnison de la place. La Bachar arriva quelques instants plus tard. Son uniforme était maculé et poussiéreux, ses chaussures portaient encore des traces de sang. Elle était grande et osseuse. Ses traits aquilins, ridés par l'âge, donnaient une impression de dignité puissante. Leto se souvint de son nom de guerre, Ilio, qui signifiait « digne de confiance » en ancien Fremen. Il l'appela cependant par son matronyme, Nishae, fille de Shae, ce qui établit pour leur entretien une atmosphère d'intimité subtile.
Assieds-toi sur un de ces coussins, Nishae. Tu as eu une rude nuit.
Merci, monseigneur.
Elle choisit le coussin rouge que Hui avait déjà utilisé. Leto remarqua les rides de fatigue autour de sa bouche, mais son regard demeurait alerte. Ses yeux étaient levés vers lui, ses oreilles étaient avides d'entendre ses paroles.
Le calme est revenu dans ma cité,
dit-il sur un ton qui n'était pas tout à fait interrogateur, laissant à Nishae le soin d'interpréter cela.
Le calme met pas la paix, monseigneur.
La rue devant l'ambassade ixienne?
On la nettoie, monseigneur. Les ouvriers ont commencé les réparations.
La place?
Au matin, elle aura son aspect normal.
Le regard de Nishae était rivé sur le visage de son empereur Dieu. Ils savaient tous les deux que le véritable sujet de l'entretien n'avait pas encore été abordé, mais dans l'expression de la Bachar, Leto identifia quelque chose de spécial.
Elle est fière de son seigneur.